galerie Vole de Nuit poursuit sa programmation borderline avec l'étrange demeure de Martine Derain, artiste photographe. Une étrange demeure qui ouvre ses portes le 30 avril. Martine Derain, bonjour.
Bonjour.
Une demeure faite pour s'y croiser, espace et parole. Un discours très construit, d'ailleurs, autour de trois propositions. Palestine, attention à la fermeture des portes et d'un seuil à l'autre. Trois propositions différentes, on va y revenir tout à l'heure, mais un point commun peut-être, un travail documentaire conséquent qui s'inscrit dans le processus de création, mais pour autant qui ne se dissout pas dans l'œuvre, qui reste existant pour lui-même, en lui-même. Ce travail approfondi de regard, d'écoute, c'est pour éviter le cliché, Martine.
Oui, bien sûr. Je pense que quand on est artiste, on essaye d'éviter des clichés. Ce que je voudrais peut-être préciser, c'est que ce que je montre dans cette galerie, ce sont ce que j'ai au final appelé des assemblages. Assemblages de matières qui ne sont pas utilisées dans les créations telles qu'elles ont été montrées, telles qu'elles ont existé. Puisque ma pratique, je la situe depuis 15 ou 20 ans maintenant, essentiellement dans l'espace public. Et aller de l'espace public à celui qui est également public de la galerie m'intéressait beaucoup. Sur d'un seuil à l'autre, son sous-titre, si sous-titre il y a, s'appelle « Perspective sur une chambre avec ses habitants » est un travail qui a duré près de 4 années à Belzunce. C'est un travail qui existe toujours dans le seuil, dans le sas d'entrée d'un foyer Sonacotra. Voilà, donc c'est la matière de ce travail, les matières inutilisées qui m'ont permis. Alors c'est un projet que j'ai fait avec Dalila Majoub, avec qui j'ai travaillé 5 ans ou 6 ans. Ces matières-là, j'avais envie aussi de les donner à voir, pas seulement comme traces ou comme documents, mais de les réagencer, de les réassembler sous une forme.
On va en reparler dans un instant, mais je te propose qu'on parle aussi du projet Palestine, ordre et désordre dans Palestine, confronter la brutalité de l'ordre militaire à la résistance qu'il suscite. Une pièce où les choix et l'engagement sont clairs, tu es à côté des Palestiniens, du côté des Palestiniens. En fait, plus généralement, ton travail, il n'est pas à côté, mais au côté d'eux.
Oui, quand on est dans l'espace public, quand on fait ce choix-là comme je l'ai fait, c'est un espace évidemment politique. Palestine, effectivement, c'est un endroit où toutes les questions qui me travaillent et qui travaillent notamment les projets que je montre à Vole de Nuit, comment trouver des espaces de liberté dans la contrainte ? Et c'était en fait une commande du consulat général de France à Jérusalem. Je vous raconte le processus en fait. Et c'est vrai que quand on pense œuvre pour l'espace public, ce qui m'était demandé, en général, les commanditaires pensent à une œuvre fixe. C'est un endroit bien précis et c'est aux gens de venir voir le travail. Et je me suis dit qu'en tout cas, on ne pouvait pas leur demander de se déplacer. C'était impossible, c'était trop dangereux. Tout le territoire est parsemé de limites frontières, herses, blocs de béton, checkpoints, convois militaires volants, trous dans le sol. Le répertoire des objets sécuritaires empêchant le déplacement des Palestiniens est énorme. Je suis donc revenue avec beaucoup d'images, donc un gros travail documentaire, notamment sur ces objets sécuritaires, sur la structure en fait, qui permet l'occupation israélienne. Donc j'ai cherché, je cherche toujours à chaque travail là où est la parole du pouvoir. Et j'ai trouvé à ce premier séjour ce qui fonde l'occupation militaire, qui sont les ordres militaires israéliens qui essaient de donner une forme légale à tout ce qui est illégal, le vol des terres. La domination économique, la spoliation des maisons, enfin tout ce qu'on peut imaginer et qu'on lit à longueur de journée. Et en revenant, j'ai choisi d'inviter Dalila, avec qui ça a été le premier gros travail, à réfléchir et en parlant, en montrant ces images. Dalila s'est souvenue d'une idée qu'elle avait eue quand elle était aux Beaux-Arts, qui était de faire circuler sur des tickets de métro, je pense qu'à l'époque c'était pour Lyon, des paroles, quelque chose qui passait en tout cas de les frontières invisibles qu'il peut y avoir à Lyon entre la banlieue et le centre-ville. Et on s'est dit que là, ça pouvait faire sens en Palestine parce que le ticket de bus, c'est le seul papier non contrôlé par les Israéliens au passage des checkpoints. Alors on avait là, alors tout petit au milieu de l'espace de l'occupation, un petit bout de papier, 6 cm sur 2,5 recto verso, où on était libre. Voilà ce que j'essaye de chercher, et ce qu'on cherche toujours, c'est où sont les passages. Comment est-ce qu'on peut continuer à être libre ? Et Palestine, ce qu'on a proposé avec l'accord du consulat, hein, qui a revu sa commande, c'est de réaliser une série de tickets de bus pour une compagnie de transport palestinienne, une des seules autorisées à franchir les checkpoints. Donc on a trouvé une compagnie qui a joué le jeu avec nous, et on a raconté une petite histoire, 100 tickets différents qu'on a assemblés à la main, 30 000 tickets en tout. C'était des façons de répondre aux ordres militaires israéliens. Et ce que je montre là, l'assemblage que je montre à vol de nuit, c'est quelque chose qui questionne le chez-soi entre... Il y a deux images, en fait. Une image de colonie israélienne, une image de maison palestinienne. Je montre les petits tickets, je raconte le processus par des objets que j'assemble.
Si proche de la Palestine à la République, à la rue de la République à Marseille, où on enregistre cette interview, je suppose que ça s'entend, pour Attention à la fermeture des portes, un projet pour lequel tu as travaillé avec la sociologue Véronique Manry et la journaliste Caroline Galmot. Caro, bonjour.
Bonjour Xavier.
Si je peux me permettre, ça fait plaisir d'entendre ta voix sur les ondes de Grenouille. Ça faisait longtemps. Comment ça s'est passé en fait entre vous, ces croisements de regards et d'écoute sur ce projet autour de la rue de la République, Caro?
Moi je suis arrivée sur le projet tardivement. Et donc c'est vrai que la partie sonore, on va dire, de ce projet est arrivée un petit peu après le travail de recherche et d'analyse et voilà, qui avait déjà été entamé. Et j'ai travaillé, en tout cas pour la partie sonore, à partir effectivement des repérages qui avaient été faits par le petit groupe de sociologues, parce qu'il y a Véronique Morim, mais il y a aussi Jean-Stéphane Borja qui a fait un travail d'analyse très important et mis en place des permanences pour permettre aux habitants de s'exprimer et de dire tout simplement ce qu'ils traversaient. Moi, je me suis greffée, on va dire, au projet, sensibilisée évidemment par la radio, puisque j'avais déjà fait quelques émissions autour de la rue de la République et son devenir.
Martine.
Je voudrais juste revenir sur deux petites choses que Caroline a dites. En fait, ce n'est pas Jean-Stéphane qui a mis en place les permanences, ce sont bien les habitants eux-mêmes qui, face à ce qui leur arrivait, c'est-à-dire un propriétaire américain qui visait leur expulsion, dans le cadre du renouvellement urbain de la ville de Marseille, ça fait partie du périmètre euroméditerranéen. Donc il restait très peu d'habitants sur cette rue, et ils se sont d'abord évidemment rassemblés face à ce qui leur arrivait. Et là, on ne peut pas ne pas parler de centre-ville pour tous. Et c'est vrai qu'en 2004, quand l'affaire de la rue de la République a commencé, moi, ma première entrée a été l'entrée militante. Alors c'est toujours un truc assez difficile entre art et action politique. C'est vrai que moi, je suis artiste et je suis aussi engagée politiquement. Sauf que, évidemment, je ne fais pas de l'art engagé, je fais un art profondément politisé, ça j'en ai bien conscience, mais ce que je fais, c'est des formes. Ceci dit, l'action militante m'a semblé d'une extrême urgence au début. Il fallait que j'y marche, il fallait que je rencontre les gens, il fallait leur dire aussi que c'était pas une affaire privée, la maison, être chez soi, qui est aussi une question qui traverse tous les boulots que je montre à vol de nuit. La question du chez soi et de la maison, c'est aussi une affaire publique. Et en l'occurrence, sur la rue de la République, c'était exemplaire, puisque c'était 550 familles qu'il fallait que la mairie, on peut le dire, le propriétaire soutenu par la mairie, en tout cas désiré par elle, voulait mettre à la porte. Il y avait des choses qu'on pouvait sentir, c'est que les habitants ne se laisseraient pas faire. Hein. Et il fallait surtout trouver les moyens juridiques, bien sûr, de répondre aux lettres de non-renouvellement de baux, aux intimidations, etc. Et c'est ce qu'on a fait pendant 4 années au travers des permanences, de telle façon que le problème de l'un, l'affaire de l'un, soit aussi l'affaire de tous. Tout ça a fait qu'on a eu à un moment la possibilité d'avoir une action collective assez jolie.
Ils ont dans la tête faire vider toute la République, c'est tout. Et voilà, et maintenant ils me proposent un relogement alors que je n'ai pas accepté, j'ai voulu rester dans ma maison. Si vraiment ils veulent l'appartement, ils sont qu'à faire, je le regarde. On fait plus de travaux parce que, vous savez, on n'est pas sûr avec eux.
Alors c'est vrai que M. Godin a dit, et ça c'était marqué sur les journaux, qui ne voulait plus de pauvres sur la rue de la République. Mais enfin, il y en a quelques-uns quand même, qui résistent et qui sont là.
Et moi, ben, la justice, malgré qu'on y ait tout expliqué, qu'on ait donné les baux des gens, qu'on ait tout dit, ben, la justice, elle a dit, mais M. Quadra, il n'a qu'à partir. Et le motif légitime et sérieux avancé par Marseille République, qui est tout simplement vaste opération de rénovation dont votre immeuble fait partie, sous-entendu, nous avons un permis de construire et l'immeuble ne sera pas habitable pendant les travaux. Et bien malgré ça, malgré qu'ils aient relogé 6 personnes, les baux sont des baux de 89, des baux actuels, hein, modernes, qui vont de 6 ans à 18 ans. Un monsieur a dit, moi je veux mourir là, maintenant vous ne me ferez plus repartir, donc je veux 18 ans. Ils ont fait 18 ans. Et ils ont même écrit renouvelable 2 fois, donc ce qui fait 30 ans. Eh bien, le juge a dit, M. Quadra, il doit partir parce que l'immeuble ne sera pas habitable. Donc, vous voyez, là, je suis remonté. Déjà, j'étais remonté parce que je vois pleurer les gens. Ma voisine de palier, qui a 80 ans, vous l'avez vu l'autre jour, j'ai passé 3 mois à lui remettre sa maison en état parce qu'elle a 80 ans, que si vous voulez qu'elle fasse. Et dans l'état où on lui a tout transporté, ses affaires, etc. Donc ça, je le vois tous les jours, je vois les pressions, je vois tout ce qui se passe. Je suis bien remonté.
Pauline Galmo, tu as beaucoup sillonné justement ces rues pour la réalisation de ce documentaire. Attention à la fermeture des portes. Tu partages les vues de Martine Devaux ?
Oui, complètement. Je partage évidemment son point de vue. Moi, j'ai sillonné plutôt les intérieurs de la rue et les appartements de ces personnes qui, effectivement, qui sont nées. Enfin, parce que pour la plupart des personnes qui ont été que j'ai interviewées, enfin, qui ont été rencontrées dans cette recherche-action, ce sont des personnes qui sont nées, qui existent, enfin, qui habitent dans cette rue depuis 70 ans. 50 ans, 75 ans, et qui ne se voient pas vivre ailleurs. Mais ce qui me pose question sur la non-arrivée de nouveaux habitants potentiels, c'est la capacité à une mixité sociale. C'est un échec de vouloir à tout prix imposer, on va dire, une mixité entre des personnes qui sont là depuis longtemps, donc plutôt issues d'un milieu populaire, avec des nouvelles personnes. Donc ça ne fonctionne pas. Donc à un moment, peut-être qu'il faut se poser la question sur le pourquoi ça ne fonctionne pas, et cette rue, finalement, ne devrait-elle pas continuer à être populaire et pour tous.
C'est dans un secteur stratégique, à la frontière de la ville et du port, du nord et du sud, gravement touché par la crise industrialo-portuaire, qu'Euroméditerranée construit le nouveau centre de la métropole marseillaise depuis maintenant 10 ans.
De l'espace public, de la rue, à l'espace intime, chez les habitants, en poussant leurs portes, comme le faisait Caroline pour son documentaire. C'est aussi entre des portes, d'un seuil à l'autre, un travail multiforme sur les migrations. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, au travers des foyers Sonacotra sur lesquels tu es intervenu. Qu'est-ce qu'on va voir à la galerie Vol de Nuit de ce travail ?
On va voir plusieurs choses. Alors, on était dans ce bel atelier. On avait à l'époque des discours de M. Godin qui disait qu'il voulait, comme sur la rue de la République, faire revenir des habitants plus riches. Qui disait tout un tas de trucs, je crois qu'on s'en rappelle, sur les souks, sur que le Marseille populaire n'est pas le Marseille arabe, n'est pas le Marseille comorien. C'était un peu de mémoire, mais c'était ça. Et on a été très intéressés par le fait qu'à quelques mètres de la compagnie se construise un foyer Sonacotra, qui, on le sait bien, n'accueille pas franchement des gens très riches et qui payent des impôts, donc, puisque c'est un petit peu le rêve de la mairie. comment se fait-il, nous, notre question, c'était pourquoi fait-on encore aujourd'hui ce type de logement minimum temporaire, mais cette fois-ci pour tous, puisque la Sonacotra, après l'arrêt de l'immigration, a évidemment ouvert ses portes à tous les gens à très faible revenu, etc., dans la précarité. Et c'était ce passé des Algériens à pour tous qui nous importait beaucoup. Et est-ce que c'est une solution de continuer à faire ce type de logement? Ça peut l'être. Est-ce que ça répond au problème de logement de Marseille? Ça, c'est sûr que non. Ça ne répond pas au problème, même si, en l'occurrence, cette résidence, tout dernier modèle, où les apparts sont très bien, c'est lumineux, c'est assez vaste, est-ce que ça, c'est une réponse suffisante? Donc, ce qu'on a proposé avec Dalila, c'est d'aller sur... C'était vraiment... La Sonacotra l'appelait... foyer, tout dernier modèle, la vitrine de l'entreprise. Et on a proposé d'aller ramener sur le seuil de cette vitrine, de cette toute nouvelle forme de la Sonacotra, deux portes de chambre du premier foyer construit en France à Argenteuil. À l'époque, les chambres, c'était 9 mètres carrés, souvent coupées en deux, 4 mètres carrés 50, qui ont été peut-être à un moment, c'est complexe comme histoire, une façon de sortir les travailleurs algériens des binovilles. En tout cas, elle a été créée en partie pour ça. C'était aussi une façon de contrôler les travailleurs étrangers. Ceux qui géraient les foyers Sonacotra, c'était les anciens de la guerre d'Algérie. C'est une histoire extrêmement violente aussi de l'État sur les travailleurs. Alors on a ramené ces portes et puis on les a enfouies dans le sas d'entrée. On a symboliquement appelé la première porte qui était grande ouverte, qu'on a calée grande ouverte sur la porte d'entrée d'aujourd'hui, porte de 1956. C'est la date de la création de la Sonacotra. Elle est grande ouverte pour le travail. Et puis il y en a une deuxième qui se referme tout doucement. On l'a appelée porte de 74, c'est l'arrêt de l'immigration. Elle se referme. Et cette métaphore des portes qui est très perçue physiquement par tous ceux qui n'ont pas de maison, avoir être chez soi quelque part, c'est pouvoir ouvrir une porte, avoir une clé et refermer la porte. On l'a enfouie donc, et enfouie émergée, elles sont visibles, elles sont comme une petite archéologie. Je reprends le titre d'un travail de Muriel Modre, sans le vouloir, ou une balise temporelle, comme je l'appelle aujourd'hui. On continue à faire du temporaire, on continue à faire des endroits où les gens ne sont pas chez eux. Et c'était bien la fonction, je dirais, de cette petite forme pérenne. Donc.
Une étrange demeure, une proposition de Martine Derain à la galerie Vol de Nuit, vernissage le 30 avril et l'exposition sera visible jusqu'au 12 juin. La galerie Vol de Nuit, c'est 6 rue Sainte-Marie, dans le 5e arrondissement. Toutes les informations sur le site voldenuit2007.free.fr. Et enfin, attention à la fermeture des portes, un livre et un CD audio qui correspondent à ce travail de Jean-Stéphane Borja, Martine Derain, Caroline Galmot et Véronique Manry est disponible dans toutes les bonnes librairies. C'est édité par les éditions Communes. Martine Derain, Caroline Galmot, merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.